L'émission est une rediffusion.
Accent d'Europe, Léa Lisa Vesterov.
Bonjour, l'Europe et ses frontières, on vous en parle régulièrement dans Accent d'Europe. Alors aujourd'hui, on a choisi de se pencher sur ceux qui viennent en aide aux migrants et leur ouvrent leurs portes. Direction l'Alsace, c'est le petit village de Thal-Marmoutier, à 3 quarts d'heure de Strasbourg. Depuis 2 ans, cette bourgade de 800 habitants accueille des réfugiés politiques. 55 étrangers d'Afrique subsaharienne pour la plupart, qui pendant 4 mois sont hébergés dans un couvent franciscain qui était vide. C'est le maire, Jean-Claude Distel, qui est à l'origine de ce projet. Un engagement qui n'a pas toujours facilité la vie, au point de recevoir des peines de mort. Mais qu'importe, le maire est bien décidé à poursuivre sa politique d'accueil. Il se représente d'ailleurs aux élections municipales de mars prochain. C'est le reportage de Robin Dussène.
À 70 ans, Jean-Claude Distel termine son 2e mandat de maire de Thal-Marmoutier. Réputé pour son calme et sa campagne verdoyante, le village l'est désormais aussi pour son centre d'hébergement pour réfugiés politiques statutaires. C'est le premier de la sorte en France. Il a vu le jour au sein du couvent franciscain.
Il est vrai que le couvent est en très bon état. Les pièces étaient propres et disponibles. Comme je dis toujours, il y a juste à ramener la brosse à dents et le dentifrice.
Inquiet pour l'avenir de ce bâtiment de 2500 m², le maire se porte volontaire en 2017 pour y accueillir 55 réfugiés, tous en provenance d'Afrique subsaharienne.
Sur le coup, la population avait l'image de Calais, Sangatte et autres. Et je dois reconnaître que ça fait l'effet d'une bombe. On avait fait quand même une réunion publique, je me rappelle toujours, le 5 décembre. Il y avait du monde. Bien sûr, il y a eu des écarts de langage. C'était un risque que je prenais, mais je l'ai pris.
Le couvent, comme on l'appelle ici, est géré par l'association France Horizon et il a réussi à mobiliser. Aujourd'hui, ils sont près de 25, comme Antoine et Anne Asman, à donner de leur temps libre pour venir en aide aux réfugiés.
On a franchi le pas très vite parce qu'on était disponible les mercredis après-midi et qu'il y avait un moment, un groupe d'échange le mercredi après-midi avec les réfugiés.
Ça a tellement de sens d'un grand, voilà, un grand couvent qui est vide, où il y a plein de chambres. Ben voilà, ça a tellement de sens de l'occuper de cette manière-là. Donc ça nous a semblé bien, positif.
Le couple d'enseignants se félicite de l'arrivée du centre pour l'échange avec les migrants, pour les nouvelles rencontres des réfugiés qui étaient en formation civique lors de notre reportage. En tout cas, Anne et Antoine apprécient le message d'ouverture et de tolérance qu'affiche leur commune.
On est fiers dans le sens où on en parle à nos proches, à notre famille, à nos amis. En disant, regardez chez nous ce qui se fait pour un petit village, c'est quand même dynamique. Voilà.
Et fier des gens aussi pour,
oui,
parce de la contagion que ça a pu créer.
Ça rend curieux les autres, ça ouvre peut-être nos proches, nos amis à quelque chose auquel on n'avait pas vraiment parlé avant.
Je pense que la population a été relativement compréhensive.
Jean-Claude Distel, le maire de Thal-Marmoutier.
Et elle a bien remarqué que ces réfugiés ne traînaient pas dans la rue, qu'il n'y avait aucune exaction, qu'il n'y avait rien, donc ça s'est vraiment très bien passé.
Le projet ambitieux de centre d'hébergement a su convaincre les habitants, selon l'édile qui dresse un bilan très positif. Oui, mais voilà, il y a quand même une ombre au tableau. Entre juin 2018 et janvier 2019, une série de tags racistes a fait son apparition sur les murs de la commune.
Ensuite, j'ai eu, c'était carrément des menaces de mort. Je me rappelle toujours, c'était le 4 janvier 2019. Style, un coup de couteau est vite arrivé. J'ai aussi eu sale juif, enfin bon, ce genre de graffiti avec des croix gammées, des croix celtiques.
Un acte malveillant que Jean-Claude Distel préfère prendre avec philosophie et qui, en fin de compte, l'a même renforcé dans ses convictions.
Ça me choque pas plus que ça et ça me traumatise pas plus que ça. Et c'est pas pour ça que je ne continuerai pas à faire ma mission telle que je l'ai acceptée. Hein.
Le maire de Thal-Marmoutier est pour l'instant le seul candidat à sa réélection. Quant au couvent, au centre d'hébergement de réfugiés politiques, il est voué à rester et à accompagner les exilés dans leur intégration et leur nouvelle vie en Alsace.
En Bosnie-Herzégovine, ce petit pays, dernière étape avant la Croatie et l'entrée dans l'Union européenne, Ceux qui viennent en aide aux migrants témoignent tous du harcèlement des autorités qui les accusent d'encourager les réfugiés à venir. Car depuis un an, la Bosnie-Herzégovine a vu le nombre d'arrivées exploser. C'est le deuxième pays d'Europe après la Grèce à avoir enregistré le plus grand nombre d'étrangers entrés sur son territoire, près de 30 000 en 12 mois. Coincés là, en attendant de réussir à passer en Croatie. Les autorités qui se sentent démunies et dépassées par le phénomène évoquent de plus en plus des risques sécuritaires pour obtenir l'oreille et l'aide financière de Bruxelles, Simon Rico.
Entre 2017 et 2019, le nombre d'arrivées de migrants irréguliers a été multiplié par 30 en Bosnie-Herzégovine et rien n'indique que les arrivées ralentiront en 2020. Cette hausse brutale s'explique avant tout par la position du pays, frontalier de la Croatie, la porte d'entrée bien gardée de l'Union européenne sur la route migratoire des Balkans. Pour tenter de dissuader les candidats à l'exil de passer, la police croate multiplie les violences et les expulsions manu militari, si bien que la Bosnie-Herzégovine s'est vite transformée en cul-de-sac alors que les arrivées continuent depuis la Grèce. Cet hiver, environ 7000 migrants sont officiellement bloqués dans le pays, dont un peu plus de 5000 dans les camps officiels, et la population bosnienne s'exaspère. Ces derniers mois, des manifestations anti-migrants ont été organisées et plusieurs agressions recensées. Dans ce contexte, le nouveau ministre de la sécurité, l'oligarque Farudin Radončić, a décidé de serrer la vis, un réajustement tactique pour tenter de rassurer les Bosniens. Récemment, il a déclaré qu'il n'était pas normal que 93% des aides de l'Union européenne allouées à Sarajevo pour gérer la crise migratoire aillent aux ONG humanitaires et à peine 7% aux agences nationales de sécurité. Le Silvio Berlusconi de Bosnie, comme on le surnomme, explique que parmi les migrants qui arrivent, il y a d'anciens djihadistes et qu'il est très difficile de les identifier. Il en profite d'ailleurs pour tacler ses prédécesseurs qui n'ont rien fait ces trois dernières années. Les lois n'ont pas changé. Les budgets de la sécurité ont stagné et aucune nouvelle embauche n'a eu lieu dans la police aux frontières, pointe-t-il, oubliant sciemment de préciser que les camps d'accueil du pays sont surpeuplés et que les humanitaires travaillant en Bosnie sont sans cesse harcelés, accusés d'alimenter le flux d'arrivées en apportant leur aide.
Sur un sujet beaucoup plus léger, seriez-vous prêt à visiter un musée de l'assurance ? En France, il y a bien le musée national de l'assurance maladie près de Bordeaux qui retrace toutes les étapes historiques jusqu'à l'avènement d'un système de protection sociale. Eh bien, dans le quartier financier de Londres, dans la City, le projet se veut un peu plus sexy et ambitieux. Il est né du cerveau d'un assureur passionné. À quoi ce musée pourrait-il ressembler ? Les explications de Marie Billon.
Ce n'est pas la première chose à laquelle on pense quand on entend parler du Titanic, mais le paquebot, soi-disant insubmersible, avait des assureurs. Les papiers n'ont pas sombré au fond avec le vaisseau. C'est le genre de document qu'on pourrait voir dans les vitrines d'un futur musée de l'assurance. Même Buckingham Palace est assuré. Il n'est pas certain que la reine ait assuré sa main, comme certaines stars américaines assurent leur corps. Jennifer Lopez, par exemple, a assuré son fessier. Mais si Elisabeth II a pris ce genre d'initiative, eh bien le musée pourrait demander une copie du contrat. Tout ça pour dire qu'un musée de l'assurance, ça peut être divertissant. Les assurances ont joué un rôle dans la plupart des grandes catastrophes modernes et elles sont très impliquées, notamment dans la mise en circulation des voitures sans chauffeur. Et pourtant, elles n'attirent pas les foules. Ce qui rend jaloux les deux hommes derrière cette initiative. Reg Brown, assureur de métier, et Jonathan Squirrel, consultant en marketing. Reg Brown dit régulièrement aller au musée de la Banque d'Angleterre. Alors si la banque a son musée, pourquoi pas les assureurs ? Une idée qui tombe à pic, puisque l'Institut des assureurs a récemment déménagé vers de plus petits locaux et n'a plus de place pour exposer les quelques artefacts qui ne pouvaient pour l'instant être admirés que par les assureurs. Des casques de pompiers dans des vitrines notamment. L'initiative a déjà récolté l'équivalent de plus de 42 000 euros. Elle a le soutien officiel des autorités de la City de Londres. L'idée est d'ouvrir un musée temporaire quelque part dans la City d'ici la fin de l'année ou début 2021 et en fonction de passer à la vitesse supérieure et de monter un musée permanent. Une question cependant reste sans réponse. Le nom. Le musée de l'assurance est une possibilité, ou peut-être plus aguicheur, le musée du risque.
Les Slovaques vont devoir élire les 150 députés de leur parlement vendredi prochain et vous nous en parlez dans le courrier international de cette semaine. Virginie Le Petit, bonjour.
Bonjour.
À l'approche de ces législatives, dans ce petit pays aussi, placé entre la Pologne et la Hongrie, l'extrême droite semble gagner du terrain.
Oui, c'est ce que raconte un reportage du quotidien tchèque Hospodářské noviny. Alors ce journal est parti dans les petites villes et les campagnes, des lieux où s'activent les militants du parti populaire Notre Slovaquie. Il décrit les meetings pendant lesquels les orateurs se relaient sur le podium, portant haut pour certains la flamme extrémiste. Il parle ainsi de bordel libéral, qualifie leurs opposants politiques de fascistes drogués dirigés par des truands et des escrocs experts de la fraude fiscale, avec en ligne de mire toujours les mêmes cibles, les homosexuels, les immigrants ou les tziganes. Le parti joue aussi avec les références au fascisme de l'entre-deux-guerres et affiche sa volonté de réhabiliter ce passé, explique un politologue interviewé par le journal.
Mais alors, est-ce que ces propos séduisent les électeurs slovaques ?
Eh oui, selon les derniers sondages, le parti populaire Notre Slovaquie attirerait 14% des votes, juste derrière le Smer SD, le parti populiste actuellement au pouvoir, dont les pratiques mafieuses ont été mises au jour avec l'enquête sur l'assassinat du journaliste Jan Kuciak il y a 2 ans. Alors que le parti au pouvoir donc peine à se remettre de cette affaire, le président du parti populaire Notre Slovaquie, Marian Kotleba, a lui appris à adapter son discours et à mener campagne dans les coins les plus reculés du pays, en allant à la rencontre directe des électeurs. Il envoie ses partisans, crâne rasé et portant le t-shirt vert du parti, proposer de l'aide dans les villages, il distribue des chèques aux familles dans le besoin et prend soin de signaler toutes ses actions sur les réseaux sociaux. Résultat, les jeunes et les électeurs désabusés commencent à le considérer comme un rebelle et un homme du peuple. De fait, la victoire de l'extrême droite aux élections est une réelle probabilité, souligne le journal.
Alors juste au-dessus, chez le voisin polonais, le secteur de la viande a de sérieux problèmes.
En effet, la Pologne, le plus grand exportateur européen de volailles, est dans la tourmente. Le pays, qui produit 2 fois plus de viande et d'œufs qu'il n'en consomme, ne peut plus exporter ses denrées vers l'Asie depuis la détection du virus de la grippe aviaire H5N8 dans plusieurs élevages de volailles il y a 2 mois. Le secteur de l'élevage, déjà confronté à la peste porcine africaine, pourrait même ne pas se remettre d'une autre épidémie, souligne l'hebdomadaire Politica. C'est une véritable bombe à retardement, indique ce journal d'opposition, pour lequel le PiS, le parti au pouvoir, ne fait rien pour arranger les choses, bien au contraire. En fait, dans la perspective de gagner les électeurs ruraux avant la présidentielle d'octobre, le PiS vient d'assouplir les règles d'abattage afin de permettre aux petites exploitations de tuer elles-mêmes des animaux. Il suffira d'une pièce équipée d'un lavabo, affirme Politica. Et la viande ainsi produite pourra être vendue dans les magasins et les restaurants polonais, hors de tout contrôle vétérinaire. Afin de ne pas se mettre à dos les consommateurs européens, le gouvernement assure que ces produits ne seront pas exportés. Mais il crée quand même les conditions idéales de propagation de maladies dangereuses pour le bétail et peut-être pour l'homme, redoute Politica.
Sur un tout autre sujet, vous nous parlez aussi de la mobilisation d'écologistes en Autriche, dans le Tyrol, qui cherchent à combattre une chaîne hôtelière accusée de défigurer et de vendre la montagne.
Et oui, alors il s'agit d'une entreprise thaïlandaise qui a pris le parti de construire aux abords de Vasenmus, un site naturel classé et préservé, un immense complexe hôtelier qui regroupera à son ouverture en 2022 77 chambres, mais aussi 45 appartements privés et 13 chalets. Alors ce chantier a mobilisé contre lui les militants écologistes locaux. Il est vrai que le projet affiche des promesses clinquantes, souligne la Süddeutsche Zeitung. Ainsi, tout acquéreur d'un chalet se verra offrir une Porsche Taycan, une voiture de sport électrique qualifiée de durable. Bref, le projet fait grincer des dents, tant parmi les 5000 habitants de la commune, qui n'ont pas été consultés, qu'au niveau du Parlement régional de Salzbourg.
Enfin, Courrier International nous emmène à Rimini, en Émilie-Romagne, sur les traces du cinéaste Fellini.
Oui, c'est un très joli sujet qui est proposé par le Guardian, dont la journaliste déambule dans la ville natale du maître, sur la côte adriatique, à la recherche des souvenirs d'enfance de Fellini, souvenirs d'enfance et d'adolescence, dont les décors habillent les films Les Vitelloni et Amarcord, pour ne citer qu'eux. Alors l'ombre du réalisateur plane encore sur la station balnéaire, mais cette quête prend parfois un goût doux amer lorsque la journaliste se rend compte par exemple que le café favori de Fellini a été remplacé par un magasin H&M. Mais qu'importe, cette balade cinéphile dans la ville est aussi l'occasion de redécouvrir la cité en attendant l'ouverture du musée international Federico Fellini prévu pour décembre.
Merci Virginie, ces sujets et bien d'autres sont à découvrir dans le numéro de Courrier International de cette semaine avec pour sujet de une, Chine, la vie en quarantaine.
May I have your attention please? Music, I like music. You like music?
Music, you lose control. Why don't you put a record on?
C'est vendredi et donc l'heure de faire plaisir à nos oreilles avec vous, Vincent Théval. Bonjour.
Bonjour Léa-Lisa, bonjour à tous.
Vous nous parlez aujourd'hui d'un groupe espagnol, Fuel Fandango, un duo plutôt explosif.
Oui, formé au début de la décennie 2010 du côté de Cordoue. Le duo espagnol Fuel Fandango s'est d'abord illustré avec une pop dansante où guitare et électronique faisaient bon ménage avec quelques discrets éléments rythmiques inspirés du flamenco. Aujourd'hui, Fuel Fandango va plus loin dans la recherche de sonorités à la fois modernes et ouvertes sur le monde avec Oriren, quatrième album qui porte les fruits de cette quête et de voyage, notamment à Cuba, où la chanteuse Nita s'est inspirée des sons et des histoires de l'île. Avec son comparse Alex Costa, ils ont habillé leur nouvelle chanson de ses sonorités et ses rythmes glanés autour du monde, mais aussi tout près de chez eux, avec notamment la présence de Vicente Amigo, l'un des grands noms de la guitare flamenca contemporaine, sur le morceau que je vous propose d'écouter, Estamos Solos.
Si hace frío, cuesta encenderlo. Mucho ruido, nada es eterno. Voy a palpar la vida, voy a destronar el miedo. Saber quién soy yo, yo soy el tiempo. Voy a palpar la vida, voy a destronar el miedo. Saber quién soy yo, yo soy el tiempo. Todo y nada. Agua y fuego, todo y nada, agua y fuego, fuego y agua, arena y viento.
C'était Fuel Fandango sur RFI. Accent d'Europe était réalisé par Steven Elsley aujourd'hui pour nous écouter partout et à toute heure de la journée. Abonnez-vous à notre podcast Accent d'Europe sur votre plateforme préférée. Bon week-end, à lundi.